Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma. Il y a possibilité de faire participer tous les Congolais aux élections de décembre prochain, en particulier ceux vivant dans les zones en insécurité telles que Kwamout, Masisi et Rutshuru. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a instruit le gouvernement dans ce sens. C'était lors du dernier conseil des ministres à Kinshasa. La Cour constitutionnelle saisie d'une requête en invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. L'auteur de cette requête, Junior Tshivwadi, dont la qualité n'est pas précisée, formule plusieurs griefs, notamment le problème de nationalité de Katumbi et l'usage des faux. On attend donc la réponse du parquet général près la Cour pour faire la lumière sur cette affaire. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République a instruit le gouvernement à travers le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur et de la Défense de veiller à la sécurisation des opérations électorales dans les territoires de Kwamout, Masisi et Rutshuru. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit au cours de la 116e réunion du Conseil des ministres de vendredi à Kinshasa. Il a insisté sur la possibilité de faire participer tous les Congolais aux élections de décembre 2023, mettant un accent particulier sur ceux vivant dans les zones en insécurité. Plus de détails avec Alain Rung.
Compte tenu de l'évolution sur terrain de la situation sécuritaire, indiquant un apaisement significatif du côté de Kwamout et une libération progressive des territoires de Masisi et Rutshuru en proie à l'agression rwandaise à travers les terroristes du M23, il s'avère impérieux pour le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer cette situation et de mettre tout en œuvre chacun dans la limite de ses compétences afin de permettre à nos concitoyens de retrouver leur quiétude et de se rendre aux différents centres de votes qui devront être ouverts en prévision des scrutins, a rapporté Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Par conséquent, le chef de l'État a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, à procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la police nationale congolaise à Kwamout et de superviser avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, en collaboration avec les acteurs nationaux et internationaux sur terrain, le retour autour des populations déplacées dans les zones libérées de Rutshuru et de Masisi.
Par ailleurs, il est également attendu du gouvernement la sécurisation des opérations de la CENI dans les territoires concernés, moyennant une évaluation préalable de la situation, particulièrement celle relative à l'ouverture des centres d'inscription en vue de l'enrôlement de la population pour les élections générales, a précisé le porte-parole du gouvernement. Pendant ce temps, au Nord Kivu, la cité de Kichanga, de nouveau occupée par le M23 depuis samedi après-midi, ceci après d'intenses combats qui se sont déroulés en pleine cité entre les groupes armés locaux et les rebelles ce week-end. Selon diverses sources dans cette région, les combattants des groupes armés ont décroché, 2 civils ont été tués et 5 personnes blessées par des balles perdues, rapportent ces mêmes sources. Ces nouveaux affrontements ont encore une fois occasionné le déplacement de la population. Jacques-Yves Molima revient sur la situation.
Les armées se sont tuées autour de 16h30 locales après presque une journée d'affrontement entre le M23 et les groupes armés locaux. À l'heure actuelle, la cité de Kichanga est sous occupation totale du M23, affirme un habitant de Kichanga qui témoigne avoir passé la nuit dans sa maison. Plusieurs sources parlent d'une accalmie précaire. Les rebelles sont visibles dans et aux extrémités de la cité où ils contrôlent la situation qui toutefois reste imprévisible. Ils ont placé leur position le plus avancée à Ndondo, à 3 km au nord de Kichanga, à Kinyumba, à 5 km à l'ouest, et à Burungu, à 12 km au sud. La société civile territoriale de Masisi dit craindre des représailles de la part des rebelles envers les civils. Telesfor Mitondeke appelle le contingent de l'EAC de s'interposer.
Des gens là, dans la nuit, quelques maisons seraient incendiées dans certains quartiers par ces terroristes sous prétexte d'appartenir à certains collabos de Ouazalendo. Nous craignons parce que maintenant, les populations restent exposées à des représailles.
Quelques habitants qui avaient fui vers la paroisse catholique, l'hôpital CBK et vers les bases de la MONUSCO et de l'EAC commençaient à regagner leur maison. Cependant, la majorité qui a pris la direction de Mouesso reste concentrée dans cette agglomération où les conditions de vie laissent à désirer.
Et sur le flanc ouest, la milice Mobondo continue à gagner du terrain dans le territoire de Kwamout, sémant panique et désolation. C'est le conseil provincial de la jeunesse du Kwango et l'ASBEL, jeune visionnaire et authentique du grand Bandundu, Javiba, qui tire la sonnette d'alarme. Cette structure l'a fait savoir dans une déclaration ce week-end à Radio Kapi. Elle appelle le président de la République à organiser urgemment une table ronde pour mettre fin à cette situation. On écoute à ce sujet Faustin Kinkoufi, président de Javiba, au micro d'Alain Rung.
Mobondo continue à gagner des terrains dans les territoires de Kwamout, où ils opèrent depuis plus d'une année. Le mercredi dernier, ils ont pris le contrôle du village Chemanfoum, à 25 km de la cité de Kwamout. Chemanfoum est l'un des plus grands greniers agricoles qui ravitaille la cité de Kwamout, le village Machambio et plusieurs centres de cette agglomération. Les miliciens y ont chassé toute la population et ont placé des barrières sur les axes routiers sous leur contrôle. Actuellement, il n'y a pas d'entrée ni de sortie sur l'axe routier Kwamout-Machambio dans la province du Kwango et Demenkao, Impini et leurs environs jusqu'à le long de la rivière Maïndombe dans la commune de Kwamout. Les jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu et ses environs, Javiba, demandent à son Excellence Monsieur le Président de la République d'activer la tenue de la table ronde pour réfléchir sur la solution à donner à ces problèmes.
Dans l'actualité aussi, le groupe de communication des Nations Unies lance ce lundi une série d'activités marquant la semaine des Nations Unies. Ces activités s'inscrivent dans le cadre du 78e anniversaire de l'ONU, dont la journée commémorative tombe le mardi 24 octobre. La semaine est placée sous le thème « Agissons ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés ». Ce groupe constitué des chargés de communication de la mission, agences, fonds et programmes des Nations Unies va se déployer du 23 au 27 octobre 2023 au chapiteau du Centre culturel Boboto à Kinshasa pour une série d'activités commémoratives. Joseph Mankamba, secrétaire technique de ce groupe et chargé de communication au bureau du coordonnateur résident du système de l'ONU en RDC, donne ici des précisions au micro d'Alain Rung.
Il s'agit d'une semaine d'échanges avec diverses couches de la population, incluant les organisations des jeunes, des femmes, autour de l'action du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, conformément à l'agenda 2030, portant sur les objectifs de développement durable. Nous prévoyons une série de conférences autour des thématiques de l'intervention des Nations Unies en République démocratique du Congo, à savoir violence basée sur le genre, assistance humanitaire, paix et stabilisation, environnement, droits humains, santé, éducation, élimination de la pauvreté et tant d'autres thématiques. À côté de ces conférences, nous organisons aussi une exposition sur nos diverses réalisations à travers les photos, à travers la documentation, mais aussi cette exposition est un espace d'échange avec les visiteurs sur les mandats de nos diverses entités. L'objectif de l'activité est de promouvoir l'action du système des Nations Unies en appui au gouvernement congolais pour l'atteinte des ODD. Entendez, objectif de développement durable.
Justice, je vous le disais en titre, le greffe de la Cour constitutionnelle a été saisi le 20 octobre d'une requête en invalidation de la candidature de Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République. L'auteur de cette requête, Junior Tivoadi, formule plusieurs griefs pour justifier l'objet de sa requête, notamment le problème de nationalité du candidat à l'élection présidentielle, l'usage de faux, l'affaire de SMIG en rapport avec les salaires des travailleurs de Katumbi dans sa société au Katanga. À cet effet, il demande à la Cour d'invalider la candidature de ce dernier à la prochaine présidentielle. On attend donc la réponse du parquet général près la Cour concernant principalement l'envoi en fixation pour faire la lumière sur cette affaire. Notons que cette requête intervient juste après que la CENI a publié la liste provisoire des candidats à la présidentielle sans en exclure personne. En réaction, Maître Hervé Diakiesse, porte-parole d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, rejette toutes ces allégations. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Il y a eu des tentatives d'élaborer des lois de discrimination, des lois racistes pour l'empêcher de poser sa candidature. Nous avons eu nos cadres arrêtés, certains kidnappés sur les tarmacs des aéroports. Nous avons eu feu mon prédécesseur assassiné dont le corps n'est toujours pas rendu à la famille. Ça ne nous étonne pas. Il y a eu l'épisode du dépôt de sa candidature à la CENI qui n'a pas donné de la joie à beaucoup parce que tout ce qu'il racontait comme mensonge sur les titres d'identité et de nationalité de Moïse Katumbi ont été balayés aujourd'hui par la vérité. Et comme ils sont habitués à fichés et qui ne savent pas faire face à une candidature de poids dans un combat loyal, ils ne peuvent que commencer à inventer beaucoup de choses. Mais nous les attendons des pieds fermes, très très fermes. Ça ne m'étonnerait pas que ces gens continuent à conspirer, à chercher à faire dire au droit le contraire de ce que la loi dit. Ça ne nous étonne pas, ce sont des gens habitués à tricher.
Et puis, la CENI dégage une telle sérénité rassurante de la tenue des scrutins à la date annoncée telle que prévue par le calendrier électoral. Le président Kadima nous en a donné la confirmation lors des échanges que nous avons eus. Ces propos sont du coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba samedi à l'issue de son échange avec le président de la CENI. Il y est revenu avec son adjointe à la CENI pour se rendre compte des préparatifs des prochaines élections. Le professeur Alphonse Ntumba Luaba, dans ses propos recueillis par Alain Rong.
Nous sommes venus en tant que mécanisme national de suivi avec mon adjointe Madame Julienne Lusenge et d'autres cadres pour nous renseigner à 2 mois de la tenue des élections sur les étapes déjà franchies, ce qui reste à faire, est-ce qu'il y a encore des difficultés ou des contraintes, et voir aussi l'état d'esprit de la CENI. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a la sérénité, qu'ils avancent bien, qu'ils sont bien organisés et le déploiement avance. Et le président nous a dit que la date de l'élection sera tenue. Donc ce sera bel et bien le 20 décembre et que les gens puissent se préparer et bien faire leur campagne électorale. En tout cas, nous sommes satisfaits des échanges. Il y a eu des éléments politiques, des éléments sociaux, des éléments concernant l'information, concernant ceux qui ont des problèmes pour refaire la carte là, mais ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas nombreux.
Direction le Kasaï-Oriental. Le calme est revenu hier à Mbujimayi après les troubles qui ont eu lieu samedi au niveau des croisements des avenues Salongo et Fatshi en allant vers l'aéroport de Bipemba. Plus de 100 personnes propriétaires des parcelles concernées par le désintéressement ont protesté contre l'enveloppe des fonds destinés à leur délocalisation. Ils disent avoir reçu les messages de transfert de 1000 dollars pour les uns, d'autres 2700 et d'autres encore 4000 dollars comme fonds pour la récupération des parcelles par l'État sur l'espace qui part de l'avenue Inga dans sa partie comprise entre l'avenue Zahir, retenue comme entrée de la nouvelle aérogare, et l'avenue Dodoma pour déboucher sur l'avenue Fatshi, ex-Lusambo, qui est retenue comme la sortie de l'aérogare. Les propriétaires des parcelles refusent ces fonds car, disent-ils, ne correspondant pas à la valeur marchande de leur terrain ainsi que des investissements engagés. Et puis, aujourd'hui, nous débutons une autre série de reportages sur la cohabitation entre le parc national des Virunga au Nord Kivu et les communautés riveraines de ce patrimoine mondial. En effet, dans ses limites avec les territoires de Rutshuru, Lubero et Beni, les populations riveraines sont habituellement accusées de violer les limites du parc, une situation qui est à la base d'un conflit permanent entre les communautés et l'ICCN. Sadiki Aboubakar nous fait la cartographie des zones en conflit entre le parc national des Virunga et les communautés.
Ce conflit est alimenté entre autres par l'état de pauvreté dans lequel vivent les populations riveraines. Cette affirmation de la coopérative des pêcheries des Virunga Kopevi est confirmée par l'ICCN. Pour résoudre définitivement ces conflits, la Kopevi estime que l'ICCN doit mettre en place des projets de survie et de développement des communautés. Jimmy Kasereka Safari est le porte-parole de la Kopevi.
La plupart des communautés disent qu'ils ne profitent rien du parc. Pour ça, l'ICCN devrait aussi mettre à plan des projets d'intérêt communautaire, construction des écoles, des hôpitaux, des sites d'addiction d'eau, des routes.
Bienvenue Bouende, chargé des communications de l'ICCN au Nord Kivu, indique que le parc national des Virunga a déjà mis en place un programme de développement dénommé Programme Alliance Virunga pour l'accompagnement des populations riveraines.
Grâce à ce programme-là, nous avons commencé avec l'énergie, nous avons développé un certain nombre de centrales hydroélectriques afin justement de donner à ces populations-là une alternative en termes d'énergie. Après, on est passé sur l'accompagnement des entreprises. Après, il y a ce programme agriculture qui accompagne les agriculteurs locaux, toute la chaîne, du début à la fin.
Mais malgré ces différentes initiatives, le torchon continue toujours de brûler entre les deux parties. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale. Un nouveau convoi d'aide humanitaire entre dans la bande de Gaza. Hier, 17 camions d'aide, dont 6 citernes de carburant, ont traversé le terminal égyptien de Rafah en direction de la bande de Gaza, bombardée et assiégée par Israël. C'est le deuxième convoi en 2 jours destiné au territoire palestinien depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a constaté un correspondant de l'AFP. Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.